Bon. Très bonjour. Nous allons reprendre cette conversation. J'ai l'impression d'être à un dîner avec des invités fascinants. J'espère que vous serez pris par leur intelligence et leur élan. Donc, je veux vous rappeler le nom des invités, parce que peut-être, depuis ce matin, vous les avez oubliés. Donc, ici à ma droite, Laurent Godet, c'est le seul Français. Alessandra Benedicti Cocchen est ici, au Cocchen. Elle est italienne, hollandaise, américaine. Oksana Mitrofanova est au bout de la table, elle est ukrainienne. Caterina Vaspinto, portugaise. Baina Chiavani, iranienne, anglaise, française. Et Ruth Pedel, anglaise, un peu africaine. Un peu indienne. Voilà. Donc, nous allons reprendre quelques-uns des thèmes qui ont été soulevés ce matin. Je vous rappelle que nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas arriver à une réponse à la question « qu'est-ce que l'Europe ?» mais nous allons la contourner et nous allons apporter certaines idées qui pourraient nous aider peut-être à définir un peu cette idée importante que nous utilisons tous les jours, mais qui est très difficile à cerner d'une façon exacte. Laurent Godet a soulevé l'idée de l'Europe comme forteresse, c'est-à-dire toute société qui se définit d'une façon quelconque, dans cette définition, devienne une forteresse dans le sens qu'elle se protège, elle protège son identité et elle exclut certaines cultures, certains éléments qu'elle ne trouve pas dans sa propre identité. Mais cette inclusion et cette exclusion est très fluide et très difficile à maintenir. Surtout qu'au cours de nos histoires, nous avons vu que dès qu'une société se referme, exclut le contact avec le monde extérieur, elle risque de mourir. Et cette exclusion est rarement efficace, que ce soit le mur que Trump a voulu construire au sud des États-Unis, que ce soit le mur de Berlin, que ce soit tout autre mur intellectuel, politique ou concrète, les murs finissent par être abattus. Dans la légende d'Alexandre, au début du Moyen-Âge, on raconte que quand Alexandre a entamé sa conquête du monde, il est arrivé en Inde et il était confronté aux hommes chiens, des hommes qui avaient des têtes de chiens. Donc c'est l'étranger par excellence, c'est l'autre par excellence, et il a voulu exclure ces hommes chiens de ce qu'il comptait être son empire. Or, il s'est trouvé, selon cette légende, que ces hommes chiens connaissaient certaines choses dont Alexandre avait besoin, notamment dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine militaire. Donc, nous avons toujours besoin de l'autre parce que, comme nous disait Ruth Bedell, nous ne pouvons pas nous connaître sans connaître l'autre et pas connaître l'autre sans nous connaître. Donc la notion d'empathie que nous a été décrite en parlant de la réception des immigrants ukrainiens deviennent en quelque sorte un élément de notre propre identité. Nous parlons de les autres et nous autres, et ces identités commencent à se mêler. Rudyard Kipling, qui est considéré malheureusement un impérialiste, qui ne l'était pas dans le sens que nous donnons à ce terme, a un poème qui s'appelle justement « Nous et les autres », où il décrit dans la voix d'un enfant ce que les autres font. Les autres mangent sur des feuilles de banane, nous mangeons sur des assiettes, nous traversons une rue avec des maisons des deux côtés, eux, ils habitent là où il n'y a pas de rue, ainsi de suite. Et à la fin, le poème finit en disant « Mais pensez bien, eux, ils nous considèrent, nous, comme les autres. » Donc ce miroir existe toujours et nous vivons dans une société du miroir. Mais pour revenir à cette idée des forteresses, peut-être, Laurent, veux-tu reprendre cette idée, parler un peu de cette idée, l'amener plus loin?
Rebonjour à tous, ou bonjour à ceux qui nous rejoignent. L'idée de la forteresse, c'était une... Maintenant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est simplement pour résumer. Je pense qu'effectivement, il y a probablement, dès l'origine, puisqu'on a parlé du mythe de Talos qui va avec le mythe Europe, de ce géant de métal qui circule régulièrement sur l'île de Crète 3 fois par jour pour vérifier que personne n'arrive ou que personne ne s'en échappe d'ailleurs. Donc il y a dès l'origine cette idée que le territoire est un territoire à conserver, à garder, à protéger. Moi je suis frappé que cette de voir à quel point cette idée de forteresse arrive à quitter le domaine du mythe pour arriver à se faire passer pour une réalité possible, politique, ce que je ne crois pas du tout pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, à la fois pour des raisons géographiques, le nombre de kilomètres de côte, le côté inopérant de tout mur à la fin, mais ça dit probablement quelque chose de notre époque. Pour essayer juste d'aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que... Tout ça, on l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter, mais la forteresse crée une homogénéité d'identité, ou en tout cas fait la promesse à ceux qui la bâtissent de créer un territoire homogène à l'intérieur de la forteresse. Ceux qui sont dedans se ressembleraient par un certain nombre de points communs. Si on parle de notre Europe, et je vais mettre peut-être les pieds dans le plat tout de suite, je crois que la grande question de cette forteresse, c'est est-elle chrétienne ou pas ? Et j'ai relu avant de venir ici des discours, par exemple, de Orban, qui sont extrêmement clairs sur le sujet. Pour lui, l'Europe est une zone, doit être une zone chrétienne, avec cette idée, effectivement, de alors je ne sais pas s'il emploierait le mot forteresse, mais de barrière. Cette promesse de l'homogénéité, je pense que c'est un leurre, c'est un mensonge de plus. Alors là, on ne parle même pas de mythe, on parle de mensonge politique, parce que rien ne dit que nos intérieurs nationaux ou même européens sont homogènes, doivent l'être, gagneraient à l'être. Ça, je ne sais pas d'où sort cette idée. Donc, il y a dans cette idée de forteresse, je crois, vraiment beaucoup d'aspects qui sont extrêmement intéressants à questionner et à combattre, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mais qui se concentrent beaucoup dans cette question de la chrétienté, par exemple. Alors juste pour Je ne sais pas si c'était par là que tu voulais aller, Alberto, moi j'y vais. Juste sur cette question de la chrétienté, pour ne pas être mal compris, c'est une question compliquée, difficile, dont on peut parler. Hein. Il ne me viendrait pas à l'idée de nier le fait que le passé européen a évidemment à voir avec la chrétienté, que c'est un héritage considérable, voire central, dans notre culture, dans notre histoire. Mais il y a des petites choses qui m'alertent et qui me hérissent le poil. C'est que d'abord, la plupart du temps, et c'est le cas d'Orban par exemple, il parle d'espace chrétien, il ne parle pas d'espace judéo-chrétien. Donc on a déjà affaire à un premier effacement. Deuxième effacement, ça repose la question de l'humiliation des origines qui ne sont pas judéo-chrétiennes et qui sont pourtant européennes depuis bien longtemps. Et j'en pense notamment aux musulmans qui sont parmi nous, ou à ceux qui ne sont rien, dont je fais partie, et donc je me sens très offensé. C'est-à-dire qu'on peut aussi n'être rien, avoir décidé de ne pas croire. Et je crois qu'en fait, moi, c'est la réponse que je fais à cette tentative de soi-disant d'homogénéisation, c'est qu'il me semble que, autant il est absurde de nier les racines, d'une certaine manière, chrétiennes, en tout cas ce legs dans notre culture, mais on peut voir la chose de manière inverse, c'est-à-dire que finalement, est-ce que l'histoire de l'Europe n'est pas l'histoire politique, lente, progressive, de la séparation de l'Église et de l'État ? Moi, ça me semble plus juste. Et en tout cas, un héritage qui ouvre le partage à plus de gens. Donc, je crois que je suis parti sur la chrétienté, mais parce que je crois que c'est une idée qui s'articule de manière très forte avec l'idée de la forteresse. On pourrait prendre des exemples dans l'histoire aussi, probablement, cette espèce de désir de repousser des vagues successives d'envahisseurs, le rapport au monde ottoman, le rapport... Je pense qu'il est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre, en fait.
Je vous rappelle que quand nous avons parlé du Quichotte, je vous ai raconté l'histoire de ce mythe de l'Espagne pure, de sang pur, qui voulait que l'Espagne n'aille ni sans juive, ni sans islamique, et que cela a donné lieu à cette falsification de reliques qui voulait prouver que le premier saint, le premier martyr de la chrétienté était en fait un arabe et que la première langue de l'Espagne était l'arabe. Parce que ce qui se passe constamment avec le choix d'un mythe, si le mythe ne correspond pas à la vraie, pour ainsi dire, vraie identité d'un peuple, ce mythe devient mensonge et crée des mensonges, produit des mensonges. Et ça, nous pouvons le retracer, nous n'allons pas le faire maintenant, ça donnerait lieu à un cours entier de mensonges et mythes. Mais c'est le mythe de la supériorité de la race blanche, le mythe de la chrétienté prend le dessus sur les croyances juives, l'islam comme l'ennemi qui est contre les valeurs d'Occident, et ainsi de suite. Mais je voudrais passer la parole à Ruth Padel pour qu'elle aille un peu plus loin dans le passé et qu'elle nous parle de l'idée des forteresses en Grèce. Parce que quand nous parlons de la Grèce ancienne, quand nous parlons des Grecs, nous sommes en train vraiment de parler de petits lieux, que ce soit Athènes, que ce soit Sparte, que ce soit Thèbes, c'est des sociétés différentes, des forteresses différentes qui se retrouvent dans une constellation par des nécessités à certains moments. Donc Ruth, peux-tu nous parler un peu de cette idée des forteresses dans la Grèce ancienne?
Oui, car l'évidence que nous avons vient du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et les cités grecques, c'était les cités-états. Chaque cité était une état. Et ils rassemblent tout ensemble quand les Perses voulaient invader. Et les Athéniens ont conduit la défense. Et puis, mais je pense que c'était un problème de qu'est-ce que c'est au-dessus de la civilisation que nous avons parlé avec le Minotaure. Car Athènes a conduit la défense et les allies dans la Méditerranée poursuivaient l'Athènes et les Perses ont été battus. Mais à 417 avant Jésus-Christ, il était démocratie, c'est tout va bien, et graduellement, l'Athènes a changé à un empire, et tous les monnaies, l'argent que les Allées ont donné pour défense contre les Perses est devenu une tribu. Et puis je veux parler à l'île de Lesbos, car Lesbos, Mytilene, a voulu être libre de cette tribu à Athènes. Les Athéniens ont décidé de massacrer tous les hommes et enslaver toutes les femmes. Mais ils ont envoyé un bateau pour conduire ce massacre. Mais la prochaine journée, la prochaine jour, les Athéniens ont avoir une autre assemblée et décidé de pas massacrer. Et ils ont envoyé un autre bateau et le massacre
empêcher le massacre.
Non, empêcher, to stop it, préventer le massacre. Et puis, à Lesbos, c'était l'historien Thucydide, c'est un très très important débat éthiquement, car c'est le Mytilene debate. Et le political opportunisme versus la pitié, la merci. Mais 10 années après, une autre île, Milos, a décidé d'être libre de la tribu et l'Athènes a massacré tous les hommes et enslavé toutes les femmes. Et Athènes a devenu, pas démocratique, a devenu un empire et l'opportunisme politique a gagné.
Je voudrais que tu ajoutes à cela, parce que nous parlons d'une société comme forteresse, que Athènes limite le nombre de citoyens qui peuvent être athéniens. Donc, si tu peux nous parler un peu de ça, pas de femmes, pas d'esclaves, il y a un nombre possible de citoyens. Donc, ça définit l'intérieur de cette forteresse qui ne peut pas contenir tout le monde.
Oui, c'est ça. C'est un système de classe hiérarchique. Et les esclaves, par exemple, tu peux le torturer dans le système légal. Quand dans le fin de la démocratie, à 404 BC, la force politique, il était une guerre, et la force qui est plus importante pour la guerre, pour Athènes, et les bateaux, the navy, et c'était les gens de navy qui a décidé de faire révolution contre la force démocratique. C'était très très difficile, mais c'est une tragédie. Et l'histoire d'Athènes est une tragédie elle-même.
Et ça me mène à une question très difficile que je voudrais poser d'abord à Oksana. Athènes se voit comme une société idéale, et pour la gérer, met des limites à cette société que, du point de vue éthique du XXIe siècle, nous considérons injuste contre les femmes, contre les esclaves, contre les étrangers, et ainsi de suite. Mais nulle société peut contenir un nombre infini de citoyens. Donc, devant la tragédie de l'Ukraine, devant le flot d'immigrants, comment pouvons-nous, dans une société qui est celle qui reçoit les réfugiés, comment pouvons-nous gérer ce flot ? Où devons-nous gérer ce flot ?
La question est vraiment difficile, parce que peut-être c'est la première fois après la Deuxième Guerre mondiale quand l'Europe a ces problèmes. Éventuellement, bon, gérer, c'est un peu difficile, peut-être c'est seulement assez idéal. Je pense que gérer idéalement, on n'arrive pas parce qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Ensuite, éventuellement, le défi devant les pays européens sera différent pour la Pologne, par exemple, et pour la France. Bon, gérer du point de vue de qui, par exemple? Si c'est gérer du point de vue de la Pologne, admettons, mais en Pologne, il y a 3,5 millions de réfugiés qui sont entrés, 3,5 millions. En France, quand même la France est le pays qui est plus grand et plus riche que la Pologne, les réfugiés, c'est peut-être 70 000 à peu près, ou 80 000. Le défi est différent. Donc, si c'est la réponse d'un pays exact, et surtout qu'on ne peut pas attendre la décision de l'Union européenne, on ne peut pas attendre l'argent de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les réfugiés ont commencé d'arriver tout de suite après la guerre. Et ces réfugiés, il faut au moins, au début, il faut les nourrir, il faut les loger. Donc du coup, je pense que c'est plutôt le peuple qui a réagi. Donc, le peuple des pays européens qui est devenu très écœurant. C'est que j'ai vu en Roumanie. Donc en Roumanie, c'est les volontaires qui m'ont rencontré. C'était pas, on peut dire, la structure étatique, mais c'était des volontaires. La même chose en France. Je pense qu'il suffisamment, il faut regarder à la mairie française. On peut dire que les mairies françaises, c'est le pouvoir local. On peut dire le pouvoir local, le représentant du peuple. Donc, presque à chaque mairie française, il y a un drapeau ukrainien qui est collé. Mais le drapeau, c'est un symbole. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mairies françaises, on accumule aide humanitaire pour les Ukrainiens. Et beaucoup de camions qui partent des mairies françaises en Ukraine, on peut dire que c'est l'aide directe de la part de la peuple. Donc, quand on parle de réfugiés, peut-être on a un peu oublié de souligner le rôle de tous les citoyens, de tous les citoyens européens qui sont très solidaires. Tout à coup, les peuples européens, donc les peuples européens différents, sont devenus très, très solidaires avec, avec des Ukrainiens. Ensuite, bien sûr, c'est qu'il s'agit de financement, il y a quand même le financement de l'Union européenne qui est mis en place, qui sera mis en place. Mais ça peut pas être, on ne peut pas faire ça assez rapidement. Donc, il faut attendre. Donc, du coup, peut-être la réponse doit venir et de structures bureaucratiques, oui, bureaucratiques de l'Union européenne, parce que c'est quand même c'est la question de financement, c'est la question de l'aide militaire, parce que si il s'agit de l'aide militaire à l'Ukraine, il s'agit de l'OTAN. Et s'il n'a pas, imaginons s'il n'a pas, si on ne parle pas de l'aide militaire, si la guerre se continue, ça peut signifier aussi qu'il y a de plus et de plus de réfugiés qui viennent. Donc c'est la question peut-être aussi d'essayer de finir cette guerre pour ne pas avoir plus de réfugiés. Ensuite, si beaucoup de territoires ukrainiens restent occupés, ça signifie que les anciens habitants de ces territoires ne veulent pas revenir, parce qu'ils ne veulent pas revenir dans la guerre et dans l'insécurité. Mais imaginons la situation quand il y a la possibilité de déoccupation, ça signifie qu'il y a beaucoup de réfugiés qui reviennent. Beaucoup de femmes, quand même, sont mariées. Femmes avec des petits enfants, elles sont mariées. Et les maris sont restés en Ukraine, soit à faire la guerre, soit elles s'occupent des autres choses. Donc, du coup, quand la situation devient beaucoup plus calme, beaucoup de réfugiés reviennent en Ukraine. Ça n'exclut pas, bien sûr, le fait que certains ils peuvent rester, pour certaines catégories, mais beaucoup reviennent. Voilà, donc la conclusion, selon mon point de vue, c'est quelque chose d'assez subjectif. Il faut essayer de réunir les efforts et de la part de la bureaucratie européenne, mais aussi il ne faut pas nier la possibilité des peuples de ces pays européens. Et peut-être aussi il ne faut pas oublier quand même que dans le pays démocratique, c'est au peuple d'influencer le pouvoir. Et je pense si le peuple, donc, et les Français et les autres citoyens du pays de l'Union européenne ont resté indifférents à l'égard de l'Ukraine, peut-être la politique d'aide du gouvernement était différente. Voilà.
Merci. Bye. Nous sommes en train de traiter le thème de cette, appelons sa générosité envers l'étranger, qui semble être une caractéristique européenne, au moins formellement. Nous disions que dans la Grèce ancienne, c'était une qualité d'une société civilisée. Mais est-ce qu'il y a des limites à cette empathie?
Tout d'abord, je suis d'accord que parfois, cette empathie, c'est elle-même une sorte de mythe. Et c'est un idéal vers lequel on est poussé. On veut arriver à avoir assez de générosité. Et je crois, juste en parenthèse, il faut toujours ne pas oublier que nous parlons la plupart du temps comme si les faits sont un événement. Oui. Qui est toute finie et concrète, mais c'est un processus. Donc, c'est beaucoup plus facile de penser à ces choses dans un état de fluidité. C'est un commencement, on continue, on essaye, parfois on prend un pas en arrière, parfois on continue à améliorer des choses. Il faut n'oubliez pas que même l'idée de la générosité est un idéal qui doit évoluer avec nous dans nos sociétés. Mais je voudrais juste, avec la réponse, je ne sais pas si c'est tout à fait correct, dans le sens de la in connection with your question, mais je voudrais juste revenir à cette idée, la métaphore du forteresse. La forteresse est un endroit limité. Il y a des murs, il y a quelque chose de très étroit, même les fenêtres sont toutes étroites. Il y a un portail qui peut être enlevé, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Soulevé, oui.
Soulevé, mais the drawbridge, l'idée de pont-levis. Oui, voilà. Donc, il y a tous ces détails qui sont liés à l'idée de la forteresse. Et il y a une autre aussi que vous avez déjà mentionnée, ça c'est la mort qui suit l'enfermement d'une société. Et parfois, nos forteresses sont les endroits où on a beaucoup de faim, parce que c'est la famine, c'est les sièges.
Oui,
donc,
les sièges.
Donc, l'histoire des forteresses ne sont pas toujours heureuses. Et je suis d'accord que c'est un grand défi pour savoir quelles sont les limites qui peuvent être à l'intérieur, qui peuvent être à l'extérieur. Mais comme toutes les autres choses liées à nos idées militaires ont changé dans notre époque, comment on peut imaginer qu'un mur peut arriver à résister l'attaque? Parce que ça descend de ciel, dans Covid, ça descend même avec le souffle. Donc, c'est impossible de créer des forteresses contre l'invisibilité de nos vrais ennemis. Il y a des ennemis, mais personnellement, je pense que le racisme, c'est un ennemi. Le manque d'égalité entre ceux qui sont à l'intérieur et l'autre qui sont à l'extérieur. S'il y avait plus d'égalité dans le monde, il n'y avait pas de réfugiés. Pourquoi les gens veulent changer leur foyer pour aller ailleurs, pour être étranger, pour être toute seule, sans langue, sans rien, sans famille? Ce n'est pas une idée qui attire l'âme. On veut rester chez soi. Donc, le grand défi, c'est d'arriver à vraiment comprendre qui sont nos ennemis aujourd'hui, qui sont nos vrais ennemis qui créent une situation dans laquelle on a trop d'immigrants, trop de problèmes d'immigration, etc.
Une autre question est le climat et l'environnement et les relations entre l'humanité et l'environnement. Et maintenant, il y a beaucoup d'immigration purement à cause de le climat. Et la déplétion des ressources à cause de la global warming. Les oiseaux, quelques oiseaux, fait la migration seulement pour le climat, de Arctique, d'Antarctique, de Arctique, d'Arctique. C'est naturel, ça, les oiseaux qui font les migrations, ils créent le monde, car le monde tourne. Et nous avons au-dessus, forgetting la guerre, nous avons une grosse catastrophe qui nous approche, un global warming qui va être encore de réfugiés.
Et la solution est sûrement parmi nous, puisque tu as parlé des oiseaux. Ruth, peut-être, Baï, pour ajouter à ce que tu as dit, tu peux nous raconter la fable des oiseaux en cherche du roi.
Oui, je suis sûre que tout le monde connaît ce magnifique histoire.
Je ne la connaissais pas avant que tu la racontes. Voilà.
Les oiseaux cherchent le roi. Ils disent, mais tout le monde, ils ont des dirigeants, les grands personnages qui sont les rois. Mais
c'est
nous,
une histoire classique de la littérature persane.
Oui. Donc, ils décident d'avoir une grande conférence pour discuter qui peut être le roi de tous les oiseaux. Tu peux m'aider, Albert?
Oui, et on sait que le roi va être le Simurgh. Mais qui est le Simurgh? Donc, ils partent à la recherche du Simurgh, et c'est un long voyage, ils traversent cette montagne, cette vallée, cette mer,
et à la fin... Et le problème, c'est que pendant ce grand voyage, moi j'aime beaucoup ma propre version de cette mythe. C'est un terrible défi parce que tout d'abord, ils perdent leur beauté. Donc les oiseaux avec toutes les plumes de toutes les couleurs, à travers tout ce voyage de douleur et de souffrance, ils passent à travers les grands feux, les volcans, etc. À la fin, ils sont tous noirs, ils sont faits des cendres. Et la moitié d'eux, parmi eux, dit « ça suffit, nous ne pouvons continuer comme ça, ça c'est trop pour nous ». Donc, la moitié de tous les oiseaux du monde quittent la recherche. Mais les autres disent « non, il faut continuer absolument, il faut trouver notre simorgue, notre grand droit ». Donc ils continuent, et maintenant, à travers les grands déserts de glace et de l'Arctique, etc., ils perdent encore plus des plumes, ils sont de os et de, chair, de peau, ils sont comme les squelettes, et après un certain moment, encore la moitié de la moitié qui reste dit « oh, non, ça suffit ». C'est trop pour nous, nous ne pouvons continuer. Et donc, encore la moitié de moitié retourne chez eux. Mais les restes disent, non, non, il faut absolument continuer. C'est la recherche de la vérité, le vrai roi, etc. Le simorgue absolu, le pur simorgue qui doit être notre roi. Et continue. Et à la fin du compte, après la moitié de moitié de moitié de moitié qui sont en retour, les restes sont à peu près 30 oiseaux qui sont toujours à la recherche du roi. Et ces 30 oiseaux arrivent enfin devant un grand portail immense qui est tellement haut, c'est jusqu'au ciel, qui est complètement fermé. Et il fait... parce qu'il veut entrer pour arriver devant leur simorgue. Et personne ne répond pas. Mais ils ont passé par le feu, ils ont passé par la glace, ils ont passé par toutes les épreuves du monde. Ils ne peuvent pas faire autrement que rester avec patience et de faire encore. Après un certain moment, la porte ouverte. Très peu. Et il y a le gardien qui est là. Il regarde ces oiseaux qui ne sont pas aux oiseaux maintenant. Ils sont des fantômes des oiseaux. Ils n'ont pas des plumes, ils n'ont rien de tout. Ils sont là. Il dit, vous êtes qui? Et les 30 oiseaux disent, oui, nous sommes ceux qui sont assemblés et qui ont discuté et qui ont passé par le feu et qui ont passé par la... Et nous cherchons le simorgue. Et le gardien dit, quoi? Vous pensez que vous pouvez entrer dans la présence du roi des oiseaux? Ils disent, oui, oui. Et puis, ils se regardent pour un instant. Ils voient qui sont déjà dans la présence du roi des oies, parce qu'ils sont, ils voient le simorgue dans les yeux d'eux-mêmes. Ça, c'est le fin. J'ai fait un petit saut.
Quand Bailly a raconté cette histoire à un public d'enfants, elle a apporté des petites enveloppes et elle a donné une enveloppe à chaque enfant. Et elle leur a dit, vous ne ouvrez l'enveloppe qu'à la fin. Donc à la fin, elle a fini. Et vous savez qui était le simurgue? Ouvrez l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait un petit miroir. Et chaque enfant serait connu comme le simurgue. Donc je pense que cette histoire nous convient en Europe. Parce que nous sommes... la solution au problème. Nous devons trouver parmi nous ce que nous avons dit, que nous avons créé. Pendant les manifestations des immigrants du Caraïbe en Angleterre, à Brighton, il y a plusieurs années. Ils marchaient avec des panneaux où il y avait écrit « We are here because you were there ». Cette raison est si claire. Il n'y a pas d'autres. C'est nous qui étions les autres quand nous sommes allés là, et c'est les autres qui sont devenus nous comme ils sont venus ici. Donc, Katharina, tu as beaucoup travaillé sur des fondations culturelles, sur le problème des bibliothèques, d'éducation. Il y a une idée que la solution à tous ces problèmes peut-être est justement dans l'éducation, dans la culture. Peux-tu nous parler un peu de ces entreprises ?
Bon, oui, je crois bien. Même Laurent, il a dans la matinée, il a aussi parlé ce besoin d'éduquer, de jouer sur l'éducation, parce que je crois même que c'est un des problèmes. Je crois absolument que les solutions sont nous-mêmes, nous avons notre solution si nous voulons les appliquer. Donc, par exemple, la crise climatique. Maintenant, tout le monde, presque tout le monde, même ceux qui dénient, ils savent que problème existe. Il y a les solutions. On connaît les solutions. Il y a des solutions techniques, technologiques, et pas seulement. Nous avons besoin de tout un autre rapport politique, philosophique, à notre relation sociale avec la nature. Et nous-mêmes, nous en tant qu'individus et en tant que collectivité, et surtout nos décideurs politiques, nous n'avons pas le courage de prendre les décisions qui puissent changer le problème. Donc, ce problème de notre relation à la nature et le climat, c'est vraiment maintenant on parle beaucoup sur la guerre en Ukraine, mais vraiment ce qui est vraiment existentiel pour nous comme humains, c'est la crise climatique, et donc il faut la travailler. Mais je crois que le problème aussi de notre contemporanité, c'est où nous amener notre système éducatif. Parce que notre système éducatif nous a amené dans les dernières décennies, c'était un système plutôt technocratique, pas du tout humaniste. Donc on n'a pas cultivé toutes les questions de l'histoire, de l'imagination, de raconter les mythes aux enfants, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup l'humanisme et n'est pas présent dans les sciences humaines, dans chaque niveau d'enseignement, donc dès la primaire jusqu'à aussi à l'université. Et donc moi j'avais l'utopie aussi on a beaucoup dans tout le monde, par exemple en Europe aujourd'hui, on parle beaucoup des bibliothèques par exemple comme des centres culturels, des centres civiques, et c'est là un peu où dans les bibliothèques on veut créer des petites utopies de ce que puisse être le monde où on peut se rencontrer avec l'autre, parce qu'on est très proche d'où les gens vivent. Les bibliothèques publiques, elles sont très proches des citoyennes dans tous les quartiers, et donc là une relation très proche à la vie quotidienne de chacun, et on peut, et c'est là qu'on peut connaître l'autre au travers les livres, bien sûr, au travers tout ce qu'on peut accéder par les ordinateurs, tout l'Internet, mais on peut promouvoir des rencontres entre les gens. Et donc, par exemple, à Lisbonne, on a créé ce réseau de bibliothèques, on a renouvelé, en fait, mais beaucoup avec l'esprit qu'on croit beaucoup que c'est là, donc par où on doit commencer, c'est tellement difficile. Mais il y a, je crois que c'était, il y a des doubles efforts, soit au niveau macro, qui on doit faire des décisions, il faut prendre des décisions politiques, mais il y a aussi beaucoup de changements dans la vie de chacun, et donc promouvoir cette expérience du quotidien, cette expérience artistique, cette rencontre avec les livres et avec les contes, avec comme cette belle histoire avec les enfants, je crois que c'est très important, parce que c'est là qu'on commence à se poser la question qui suis-je, et parce que cette question, aujourd'hui, on n'ouvre pas l'espace de poser ces questions dans la vie quotidienne. Et il faut redécouvrir cet espace. Il faut créer ces ambiances. C'est nous qui pouvons, en fait, aussi, nous avons ce mélange de décisions collectives et individuelles. On doit avoir aussi les outils pour comprendre le monde. Et l'expérience artistique, ça peut aussi nous ouvrir ses portes. Quand je dis l'expression artistique, ça veut dire lire un livre, écouter une musique, écrire, entendre un poème, écrire un poème. Tout ça sont les expériences du sensible qui nous permettent aussi d'aller à la rencontre de l'autre et de développer nos émotions, parce que on ne comprend pas seulement avec notre raison, on comprend aussi avec l'émotion, et ça, c'est toute l'expérience du sensible qu'on peut avoir au travers la culture et l'éducation. Donc, pour moi, les bibliothèques sont ces espaces civiques, culturels, où on peut créer cette utopie d'éduquer les pour une citoyenneté plus empathique et plus ouverte vraiment à l'autre.
Laurent, Catherine a parlé de émotion. Toi, tu écris dans ce livre merveilleux, Nous l'Europe, les peuples avancent par à-coups et renversent les tables, mais l'Europe mourra si elle se tient éloignée de la passion. Cette passion passe par l'éducation.
Je dois juste peut-être expliquer en trois mots. Je crois effectivement que alors là, on parle de construction européenne, hein, on parle de l'Union européenne et pas de l'Europe au sens le plus large du terme. Je pense qu'effectivement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qu'on appelle aujourd'hui les fondateurs de l'Europe ont décidé de cette construction en se tenant effectivement assez éloigné des peuples, et on peut très bien comprendre, je ne sais pas du tout une critique de ma part, je pense qu'au sortir de la guerre, on avait vu à quoi menait la passion des peuples. Elle avait mené au meurtre, à l'aveuglement derrière un seul homme. Donc je crois qu'il y avait cette espèce de suspicion vis-à-vis de la passion politique très forte au sortir de la guerre, et que c'est pour ça effectivement la plupart des pères fondateurs ne sont pas des élus, par exemple, ce sont des grands fonctionnaires européens, mais ce ne sont pas des élus. La question, c'est combien de temps est-ce que ça peut durer, ça, par rapport à l'Union européenne. Combien de temps est-ce que l'Union européenne peut continuer son aventure politique sans passion citoyenne derrière elle? Et je crois qu'on est arrivé à un premier essoufflement qui est probablement dû à une question générationnelle. Pendant longtemps, pendant deux générations, la question de la paix a été tout de même un énorme acquis mis au profit de l'Europe. On reconnaissait à l'Union européenne de nous proposer depuis au moins deux ou trois générations la paix. D'abord, ensuite il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie qui a mis un premier coup de couteau dans cette espèce de foi en la paix. Et puis surtout, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui peut-être prend cette paix-là comme acquise et a besoin d'un autre serment, d'une autre utopie plus forte, probablement à chercher, à mon avis, mais ça c'est personnel, du côté de la... ce qu'on pourrait appeler ou une fraternité ou ce que les anglo-saxons appellent le care, prendre soin des siens, prendre soin de tous, une égalité du traitement. Je pense que le virage va se faire là. C'est très injuste parce que l'Europe continue à nous offrir la paix, mais je pense que ça ne suffit plus. Il faut ajouter une deuxième utopie, si je puis dire, ou en tout cas un deuxième projet plus exaltant, et celui de la fraternité ou de l'égalité est certainement extrêmement important, sans quoi effectivement de plus en plus d'Européens vont se désolidariser de cette aventure en la considérant sans passion. Encore une fois, l'absence de passion à l'origine, moi je le comprends très bien. Je pense, vous savez, qu'il y a une comparaison à faire. Enfin bon, non, je vais me perdre. Alors, est-ce que c'est l'éducation qui va passer, qui offrira ça? Certainement, mais peut-être pas uniquement. C'est-à-dire que je crois que malheureusement, ce sont les crises qui nous ramènent à ce à quoi nous tenons. Et je crois qu'on le vit en ce moment avec la guerre en Ukraine. On l'a vécu avec le Covid. Ce sont aussi ces moments de vacillement, de vertige, de peur, qui nous font réinvestir des questions fondamentales. Qui sommes-nous? Mais au sens, qui nous voulons-nous être? À quoi est-ce qu'on tient? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à abandonner? Parce que sinon, ce serait se dénaturer. Toutes ces questions fondamentales qu'on ne se pose pas en période calme et que là, peut-être, on se repose de manière forte. C'est ces questions-là qui, peut-être, amèneront un petit peu de passion. Je pense que on voit aujourd'hui avec l'attaque russe sur l'Ukraine à quel point la question de la liberté redevient centrale pour chacun d'entre nous, parce qu'on a sous les yeux des gens à qui la violence est imposée. Et la question de la liberté s'est beaucoup posée aussi avec les contraintes sanitaires dues à l'épidémie de Covid. Je pense que Je vais finir avec ça. C'est un petit peu d'optimisme. J'ai des enfants qui sont adolescents, on va dire, et qui donc font partie d'une génération qui avait connu la construction européenne dès le début, qui avait connu l'absence de frontières entre la Belgique, l'Espagne, l'Italie et pendant quelque temps l'Angleterre, mais pas tout à fait. Et pour eux, la première fois de leur vie où tout d'un coup il y a une contrainte aux frontières, c'est la pandémie et le Covid. Pour la première fois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans la zone européenne, aller dans le pays voisin sans avoir des papiers, des autorisations. Peut-être y aura-t-il de la part de cette génération une passion à retrouver la circulation libre européenne quand vraiment le Covid sera vraiment, vraiment derrière nous et qu'on retrouvera ce que nous avons connu au moment où les frontières sont tombées. En disant, mais c'est formidable, alors je peux aller sans changer d'argent et sans montrer mon passeport en Allemagne? Eh bien oui, peut-être que cette nouvelle génération va le connaître maintenant, en sortant de cette longue période de 2 ou 3 années où ils ont été contraints dans leur espace européen. Et ça me rend plutôt pessimiste. J'ai l'impression qu'il va y avoir un appel d'air de leur part et que ça peut s'apparenter à de la passion s'ils l'investissent joyeusement.
Je vais revenir à toi dans 2 minutes pour parler de la géographie européenne, mais je voudrais demander à Alessandra si aux Pays-Bas on ressent la même chose, c'est-à-dire les générations des adolescents ont ressenti que pour la première fois ils avaient des frontières.
La question de génération, oui, tout à fait. Ce que Laurent, vous venez d'invoquer, ça a été très fort aux Pays-Bas. Mais moi, je voudrais enchaîner de cela sur un concept critique, Alberto, que vous aviez invoqué au début, le cui bono. À qui est-ce que ça bénéficie et comment est-ce qu'on se voit en relation en tant qu'Européens avec d'autres? J'ai le droit de poser une question ou entre nous. Pour combien d'entre nous est-ce que la crise de l'environnement est directement liée au colonialisme. Donc, au musée où je travaille sous l'égide de quelqu'un de merveilleux qui s'appelle Wayne Modest, et il a eu une grosse bourse pour de l'Europe pour s'interroger sur comment la crise de l'environnement est liée directement au colonialisme. L'exemple le plus efficace, c'est la plantation et amener beaucoup trop de gens, les personnes kidnappées qui sont devenues des esclaves ou des personnes en esclavage, dans des îles où il y a presque, il n'y avait pas beaucoup de monde et ces îles n'étaient pas censées avoir tellement de monde et aussi être complètement rasées. La même chose a eu lieu en centre de l'Afrique. Et donc, comment est-ce qu'on peut... C'est trop violent, je pense, d'affronter le fait que le colonialisme a tellement à faire. Et quand vous avez parlé, Bailly, de Prométhée, au fait, cette idée de progrès, c'est ce qui nous tue en ce moment. Et juste pour l'amener au présent, ou pas si loin du présent, mais ça, c'est Larry Summers, qui gérait le World Bank, qui a été le président de Harvard pendant des années. Je pense que la logique économique derrière se débarrasser d'une énorme quantité de débris toxiques dans le pays le plus pauvre est impeccable et on devrait en faire face. J'ai toujours pensé que les pays en Afrique sont vastement sous-pollués. Leur qualité d'air est comparée à Los Angeles, beaucoup moins. Entre vous et moi, c'est dans un email, la Banque mondiale devrait être en train d'encourager plus de migration de dirty industries dans les least developed countries. Ça, c'est 91. Donc pour moi, je m'énerve, je suis triste quand j'entends les histoires de Oksana. Je pense que ce qui est le plus difficile en Europe, c'est que les histoires que vous venez de nous raconter après le déjeuner sont d'une telle violence. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec l'autre après une telle violence? Et comment est-ce qu'on peut construire une société en Europe, aux États-Unis, quand, peut-être moi je ne l'ai pas fait, mais mes ancêtres l'ont fait, ma blancheur l'a fait. Et ce n'est pas la culpabilité, mais c'est l'implication. Et je pense que comment est-ce qu'on peut être plus impliqué pour voir le tout ensemble? Donc, c'est l'éducation de qui qu'on va faire dans ces écoles? Comment est-ce qu'on va enseigner l'environnement à des enfants? Et ce sont vraiment des crises de narration. C'est très difficile, mais... I don't know. La première question, je ne sais pas ce qu'elle était, mais je pense que ce sont des choses très sérieuses. Ah oui, le cui bono. C'est-à-dire, si c'est seulement pour les Européens et les jeunes qui voyagent entre... Oui, c'est génial de pouvoir aller en Italie sans montrer ses papiers. Mais au coût de qui? Au coût des Africains à qui on va... Pendant des années, on a laissé des toxic industries. Donc, je pense qu'il y a un manque de conscience de cette Vrijheid aux Pays-Bas, c'était au prix de quelqu'un pendant des décennies. Et ce n'est pas la faute de ces jeunes, ce n'est pas la faute de nos enfants, ce n'est pas la faute de mes étudiants, mais ils y sont impliqués. Et comment est-ce qu'on arrive à ranger cette implication, c'est Rothberg qui parle de ça, dans nos narrations et dans nos éducations, je ne sais pas.
Merci. C'est évident, nous avons parlé de cela, qu'il faut d'autres, il nous faut d'autres narrations, il nous faut d'autres mythes pour avancer. Il était un peu inutile faire un mea culpa parce que ça ne bénéficie personne, ça soulage notre conscience peut-être, mais ça n'aide pas les victimes du passé, les victimes du présent. Il faut changer l'histoire que nous racontons. Il faut trouver d'autres mythes. Le mythe d'Europe, nous approchons peut-être là encore à une histoire qui n'est pas celle de l'enlèvement de la princesse. Une partie de ce mythe que nous associons avec l'Europe, c'est la Méditerranée. Et je veux poser la question, parce que, évidemment, si nous imaginons sur la carte l'Europe, nous voyons bien que le continent est entouré de trois parties de la mer. Évidemment, la Méditerranée, mais aussi l'Atlantique et la mer du Nord. Pourquoi est-ce que l'Europe est ancrée dans cette Méditerranée? Et pourquoi nous ne considérons pas dans notre imaginaire ces autres mers comme identifiant l'Europe? Pour le Portugal, c'est vrai, c'est l'Atlantique. Pour les pays scandinaves, pour l'Allemagne, c'est la mer du Nord. Mais nous associons l'Europe avec la Méditerranée. Et toi, Laurent, dans ton imaginaire littéraire, la Méditerranée est très présente.
Mais oui, mais c'est parce que... Alors, on en revient à la question de l'identité. Je peux vous répondre personnellement. En fait, je vais répondre à la question, je crois, mais... C'est une énigme. Qu'est-ce qui, à la question « qui es-tu ?», comment est-ce que chacun d'entre nous va répondre? Je suis prêt à parier que nous serons très peu, voire aucun, à dire spontanément « je suis européen ». On peut dire « je suis français, je suis anglais, je suis allemand ». C'est un état de fait, c'est un état civil sur nos papiers. On n'a rien fait pour, c'est comme ça, on est né ici. On peut dire, moi je dirais assez volontiers « je suis parisien » parce que c'est dans cette ville que je vis et que ça a un sens pour moi de brandir cette identité-là. Je pourrais surtout dire « je suis de langue française » puisque comme je suis écrivain, ça me constitue certainement plus que bien des autres identités que je pourrais produire. Et effectivement, bizarrement, je dirais volontiers, je suis méditerranéen alors que je ne le suis pas, si on s'en tient à ma généalogie ou au sang qui coule en moi. Mais je suis méditerranéen par l'imaginaire, par la culture, par le goût, tout simplement, par les plats auxquels je rêve quand j'ai envie de manger, par les couleurs qui me font du bien, par les paysages que j'aime regarder. Je suis méditerranéen par les livres que j'écris et par, du coup, une forme d'identité. Je revendique totalement cette capacité à se décider de quelque part alors que l'arbre généalogique le dément. Et je n'en fais pas non plus une identité, embellie, parce que l'histoire de la Méditerranée nous raconte aussi, on en a parlé au tout début ce matin, mais nous raconte aussi en permanence que jamais on ne se tue aussi bien que quand on est frère. Et ça nous ramène peut-être aussi à ce que disait Oksana tout à l'heure avec beaucoup d'intensité sur la fraternité supposée entre la Russie et l'Ukraine et cette espèce de révolution copernicienne dont elle parlait en disant mais finalement c'est les Roumains qui nous accueillent alors qu'on nous avait dit que c'était les Russes, nos frères. Mais les mythes méditerranéens nous racontent en permanence, et d'ailleurs je pense que les mythes dans le monde entier racontent en permanence que les jumeaux se tuent particulièrement bien et férocement justement parce qu'ils sont frères. Donc cette identité européenne, elle est, oui, pour ma part, elle est beaucoup méditerranéenne parce que je crois qu'il y a, je vais finir avec ça, il y a en Méditerranée une proximité permanente entre les lieux de sang, S-A-N-G, et les lieux de beauté qui, je ne sais pas pourquoi, me troublent, me parle et m'aimante, en fait. Je ne peux pas dire que je trouve ça beau, mais je trouve ça, oui, il y a quelque chose d'une aimantation pour ces terres méditerranéennes dans lesquelles on s'est si souvent tué et dans lesquelles on a aussi si souvent construit du beau. C'est ce que j'ai essayé de résumer dans ce recueil de poèmes de sang et de lumière. Voilà, je crois que la Méditerranée, elle est faite de ça, de sang et de lumière, et que c'est une identité dont nous héritons.
Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique du Nord ?
Pardon.
Oui.
Je voulais ajouter justement un commentaire parce que aussi j'avais pensé, est-ce que je suis européenne ou pas ? Moi, j'ai fait le Collège d'Europe. Je ne sais pas si vous savez, c'est une école qui pour moi, qui forme les fonctionnaires européens. Et quand j'étais là, il y a déjà plus de 35 ans, j'étais frappée parce qu'on n'avait aucun cours. Rien, on ne nous parlait sur l'Europe, sur ce qui était l'Europe. Et à l'époque, pour moi, l'Europe, dans les relations avec mes collègues, c'était, on mettait en valeur presque nos différences entre les Français, les Allemands, les Portugais et les Espagnols. Mais aujourd'hui, quand on vit dans la... Et ça m'a frappé beaucoup. Comment une école européenne qui a été créée par les politiques qui ont créé l'Union européenne n'a pas dans son cours au moins quelques sujets qui sont partagés partout sur l'histoire d'Europe, sur les valeurs européennes. Ça m'a toujours frappé. Mais aujourd'hui, dans cette période de globalisation, moi, je peux dire que je me sens européenne. Surtout maintenant que je vois, je partage beaucoup ma vie entre l'Europe et les États-Unis. Quand je vois la vie aux États-Unis, je pense non, il y a un modèle social encore en Europe qui est différent et dans ce sens, qui nous définit dans nos rapports. Sociaux sont différents de ceux qui en Amérique. Notre relation à l'argent est différente. Et donc aujourd'hui, surtout après l'ère Trump aussi, je dis non, je me sens européenne. Je pense bon, je ne suis pas née, je vis pas en Hongrie parce que peut-être si on est hongrois ou même anglais, je ne sais pas comment on peut se positionner, mais moi, aujourd'hui, je me sens européenne. C'est une identité que je revendique pour moi-même, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies avant.
Et là, on touche à quelque chose de très intuitif, très émotionnel, parce que on peut dire « je me sens européenne », mais qu'est-ce qu'on veut dire par cela ? C'est vrai, on se dissocie de l'Amérique de Trump, mais est-ce qu'on se sent proche de l'Hongrie ? Est-ce qu'on se sent proche de la Suède ? Est-ce qu'on se sent proche de l'Espagne ? Est-ce qu'il y a un modèle social ou culturel commun ? Nous revenons à la question initiale. Qu'est-ce qu'est l'Europe ? Qu'est-ce que être une européenne ? Et donc, je vais revenir à Ruth, parce que je vais commencer par cette racine grecque. Qu'est-ce que c'était l'Europe pour les Grecs ?
Ah, maintenant ? Aujourd'hui ?
Non, à l'époque d'Homère. Elle était toute petite, mais elle était là.
Mais aujourd'hui, c'est difficile pour les Grecs, car je ne sais pas s'il y a les Grecs ici. Mais peut-être, non ? Oui, mais on dit on va à l'Europe. La Grèce est entre l'Asie et l'Europe. C'est difficile. Il est les Balkans, il est d'Asie et il est d'Europe.
Mais à l'époque...
À l'époque de Homère.
Oui. qu'est-ce que c'était quand on disait Europe ? Qu'est-ce qu'on entendait par cela ? Quand
on parlait disait pas Europe,
de la princesse Europe fondant un continent. Qu'est-ce que c'était ça?
Mais elle n'avait pas fondé un continent. Elle était en Crète, qui n'était pas Grèce. C'était une île entre l'Afrique et la Grèce. Et la Grèce, tu as parlé de le mot barbare, barbaros, et quelqu'un qui ne parle pas la grecque. Tous les autres pays au nord ou à l'est étaient barbares. Oui, je me rappelle quand j'étais à la Sabène et j'ai vu une vieille école où il y avait une carte, un plan du monde. Et si il était en Angleterre, ça veut en rouge tous les pays que sont les nôtres. Mais en France, dans les Cévennes, cette petite école, et tous les pays où la langue française est parlée. Et ça, c'est la différence, je pense. Les Grecs la définition de pas grec était barbaros.
Quand je me suis penché sur la question de l'Europe, le mythe de l'Europe, je n'ai pas pu trouver à quel moment les Européennes commencent à avoir conscience de qu'ils sont européennes. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez proposer un moment historique où les Français, les Allemands, les Italiens disent
les crusades,
nous sommes européens?
Les
croisades.
Oui, Louis IX.
Donc peut-être. L'invention de l'autre, l'ennemi crée l'identité.
Je peux dire quelque chose?
Oui.
Quand vous avez demandé cette question, comment on se voit l'Europe de dehors? I mean, from outside, de dehors.
De dehors.
Oui, moi j'ai pensé à un mot en persan qu'on utilise pour les Occidentaux. On dit les pharyngis. Oui, pharyngi. Et on pense que tout ce qui est l'Europe ou plus loin que l'Europe, tout ce qui est dans l'Occident, c'est pharyngistan. Le mot pharyng, c'est très intéressant parce que ça vient des francs. Les Iraniens ne pouvaient pas dire F et R en même temps. Ils disent fer. C'est comme le mot sexe, il faut dire Essex. Donc, il faut toujours ajouter un E devant le consonant. Donc, pharyng devient la façon de dire franc, les francs. Ça veut dire les soldats qui sont allés pour faire les croisades, pour regagner, pour reconquérir Jérusalem contre les Sarrasins. Donc, les francs où les pharyngs sont ceux qui venaient pour reconquérir nos pays, ça veut dire le Levant, les pays arabes, parce que ce mot est entré dans la langue persan à travers l'arabe. Donc, j'étais fascinée par ce mot. Je me disais, quelles sont les connotations de ce mot pharyng les pharyngis. Et j'ai trouvé deux curiosités, si tu peux me permettre de partager ça.
Oui.
Il y a un mythe, on peut dire récent, qui vient de les époques populaires de la série télévisée de Star Trek. Donc, on cherche dans toutes les galaxies et on trouve des êtres bizarres. Et parmi des êtres qu'on a rencontrés à travers ce grand voyage avec le Starship Enterprise, on arrive à un endroit où il y a des gens qui s'appellent les Ferengs. Ça veut dire que c'est les mêmes mots avec un E au lieu d'un A. Donc les Ferengi sont les gens de Ferenginar. Et ils sont très bizarres, ils ont des traits en commun, ils ont des grandes oreilles qui sont très sensibles et érotiques, ils ont des ongles bleus, ils ont un peu un peau taupe, ils sont un peu ugly, oui. Ils ne sont pas jolis, oui, ils sont très moches, mais ils sont très rusés, ils ont une avidité extraordinaire, ça veut dire ils prennent tout, ils sont très matérialistes, et une cupidité, et ils n'ont aucune honte. Et ça, c'est les Ferengi. Et comme j'ai vu ça dans la description, je me disais, mais ça, c'est fascinant, ça, c'est le point de vue de l'Occident vers l'Orient. Sorry, the other way around. Oui. L'Orient vers l'Occident. C'est une sorte de symbole de comment les Occidentaux sont vus par peut-être les Sarrasins, je ne sais pas. Mais ça, c'est la première curiosité. Le deuxième, c'est une duo que je n'ai jamais entendue avant. C'est une duo magnifique, une femme qui joue la lutte avec une longue manche et un homme, j'ai oublié leur nom, excusez-moi, mais vous pouvez les trouver parce que le nom du groupe, c'est Farangi. Donc l'homme, il joue le contrebas, basse, et la femme, elle joue la lutte. Et leur musique, c'est extraordinairement mélangé de l'Occident et l'Orient. C'est une magnifique mélange et c'est plein de poignancy, c'est très poignant et c'est plein de lamentation mais aussi de beauté. Et je me disais, ça c'est fascinant que ce mot peut être utilisé avec ces deux sens, quelque chose de très moche et très une avidité terrible et l'autre sens, la beauté, quelque chose de magnifique, l'art, la culture, la musique, etc. Donc voilà deux points de vue sur l'Occident. Voilà.
Merci. Je pense que en répondant à ta question, je pense que la figure de Hérodote, l'écrivain Hérodote, est très très important ici, car il était plein de curiosité anthropologique et géographique et ethnographique. Et je ne me rappelle pas où, mais il a interrogé quelqu'un l'Iran. Et ce personnage a dit, oui, j'ai écouté aux Athéniens. Ils ont, je pense, un espace au centre de la cité où they come together, ils viennent rassemblent et ils disent aux autres les messages. Et ça, c'était l'agora, la cœur de la démocratie. Mais je pense qu'il peut être aussi devient être le théâtre.
On va faire une pause d'une demi-heure pour que nos invités puissent aller prendre un peu d'air, un café et vous aussi. On va se retrouver à 16h20 et là, on va continuer jusqu'à la fin. Nous allons approcher la question de qu'est-ce que l'Europe. J'espère que nous aurons quelques clés pour une réponse. Merci, à tout de suite.